Déjà bienvenue à tout le monde, ravi de vous voir si nombreux pour cette deuxième journée de l'édition 1,5 du Festival des Mondes de l'Imaginaire. Alors comme vous le savez ou peut-être pas, nous avons une journée Award qui est donc aujourd'hui le 10 avril, qui commence maintenant avec cette première conférence. Je vais rapidement vous détailler dans quelques instants le menu de l'après-midi. Et ensuite je vous présenterai mes invités pour cette première conférence. L'idée de faire une journée Award, elle n'est pas nouvelle. Ce sera la sixième à laquelle je participe, que je co-organise en fait depuis pas mal de temps. La deuxième sous cette forme actuelle avec mon complice Claude qui est ici même avec cette superbe chemise entre les rangs. Et voilà, donc on a fait la dernière il y a un peu plus d'un an maintenant au dernier bar avant la fin du monde à Paris à l'occasion du jeu de plateau Conan qui est en préparation à cette époque. Et aujourd'hui, le thème de la journée, c'est hommage aux grands anciens. Alors évidemment, la référence elle est évidente. Les grands anciens, c'est Lovecraft. Et mais par les grands anciens ici, on veut surtout rendre un hommage à ces gens qui m'ont fait découvrir Robert Howard dans différents médias, que ce soit par la bande dessinée ou par leur texte et leur traduction. Donc explorer ce qu'était le milieu de l'époque, du fandom français des années 60 et 70, tant dans l'édition que dans la bande dessinée, et voir un petit peu comment tout ça se passait à cette époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on regarde ça avec un regard un peu différent. On est en train de canoniser des auteurs comme Lovecraft, comme Howard, Clark Ashton Smith prochainement. Donc ces gens-là qui aujourd'hui, que nous on prend comme argent comptant, j'allais dire, comme des pionniers de la fantasy. Il y a 30-40 ans, le paysage français n'avait rien à voir. Et c'est grâce à ces gens-là que, pour beaucoup, on est qui on est aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est grâce en François, en grande partie, que je suis devenu petit, je suis devenu. Je pense pour Christophe, c'est la même chose. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a un parcours plus ou moins similaire. Donc l'objet de cette première conférence, c'est ce que j'ai appelé la préhistoire. Alors la préhistoire, c'est un petit peu méchant, ça va donner l'impression que je vieillis François, ça va un petit peu te fossiliser. François Truchot, on en parlera beaucoup cet après-midi, il est à bien des égards l'invité d'honneur de cette journée Award. Il va être présent sur toutes les conférences. Donc la première, c'est maintenant, c'est la préhistoire. La deuxième, on va se pencher sur Howard en bande dessinée en France dans les années 70 et début des années 80, voir comment ça fonctionnait, comment ça marchait, comment ça a évolué. Et une troisième conférence qui va être le clou de la journée, qui va être les années néo. Donc, puisque pour la plupart des amateurs de Howard en France, on a vraiment eu la révélation de l'immense auteur qui était Howard à travers les livres publiés par les éditions Néo, qui étaient tous dirigés et traduits par François. Et on conclura la journée par un hommage à M. Truchot. Voilà, le principe, c'est une petite conférence. On va intervenir, dire des choses plus ou moins intéressantes. Je vais tâcher de rester en retrait, ce que je ne fais qu'assez rarement. Mais aujourd'hui, pour une fois, je suis juste un fan. Je suis à côté d'une de mes idoles. Tout à l'heure, Jean-Michel Nicolet va venir nous rejoindre. Voilà, moi, je suis un gamin aujourd'hui, je suis un adolescent et j'ai l'impression d'avoir 18 ans. Et c'est juste extraordinaire. Donc cette journée, c'est aussi une façon de dire merci à ces gens-là. Je vais laisser à François le soin de se présenter. C'est François Truchot, bien évidemment. C'est un grand monsieur.
Bon, ben, je pense que tout a été dit. Je ne sais pas par quoi on peut commencer.
Comment as-tu connu
Howard? Howard, je l'ai déjà raconté. Je l'ai découvert vraiment par hasard. J'étais fanatique de Frank Zeta. Et un jour, j'ai acheté la série Lancer. Des aventures de Conan. Et j'ai ouvert un Conan par hasard, et j'ai tout de suite été emballé par le caractère, la narration de Howard, la précision en trois pages. Il dénotait exactement tout de suite le lieu, le personnage, et puis l'action qui allait à toute vitesse. Donc j'étais vraiment, je les ai tous lus. Et puis après, donc, c'était en 69-70. Et après, en 72, j'ai appris que l'édition spéciale, on en parlera après.
Voilà.
À ma droite, Christophe Thiel, qui va lui être notre monsieur spécialiste du contexte français des années 60-70. Je te laisse te présenter, Christophe.
Oui, Christophe Thiel, donc on me connaît peut-être un petit peu à propos des éditions Malpertuis. J'ai aussi la prétention de connaître quelques trucs autour d'un autre auteur qui est Lovecraft. Alors Lovecraft et Howard, il y a quelques rapports. Et puis il y a aussi des rapports en France un peu indirects à travers les gens qui nous les ont fait découvrir, et en particulier Jacques Berger, dont on parlera.
Et dont on va commencer, je pense, à parler tout de suite. Alors, le milieu dans lequel le fantastique, la fantaisie se découvre en France, on est, comment ça se passe à cette époque? Comment est-ce que des Français, les lecteurs français, peuvent découvrir des auteurs américains?
Eh bien, on a à cette époque, c'est-à-dire années 50-60, il y a... Et le médium principal, c'est la grande collection de l'époque qui s'appelle Présence du Futur. Et on a autour de ça, donc, évidemment, Présence du Futur a fait paraître des auteurs très classiques comme Ray Bradbury. Et puis, dans les toutes premières parutions, on trouve aussi Lovecraft, et avec la patte de Jacques Berger qui est derrière tout ça et qui explique qu'il lui a fallu quand même une bonne vingtaine d'années, je crois qu'il dit 25 années d'efforts, pour faire connaître Lovecraft au public français. Alors après ce travail-là, il va aussi y avoir du travail, je vais passer directement à ça, hein, du travail de Berger autour de Howard. Et là, il faut passer un petit peu après. Et on arrive en 1965, une fort belle année, où c'est la première parution, si je ne me trompe pas, c'est le spécialiste à côté de moi qui va valider, c'est la première parution d'un texte de Robert Howard en français, traduit par nul autre que Jacques Berger lui-même, et qui paraît dans la fameuse revue Planète, hein, sa revue du réalisme fantastique, où il était question de un peu de tout et beaucoup de pas mal de choses, et avec tout un aspect littéraire qui tournait autour du fantastique et d'écrivains non conventionnels. Donc on a voilà cette première étape, je dirais, c'est 1965, Le Phénix sur l'épée dans Planète, traduit par Jacques Berger.
Alors, c'est une édition un petit peu spéciale du Phénix, puisque l'auteur de la nouvelle, c'est un certain Norbert Howard. Donc, ça donne un petit peu le ton. Et la nouvelle aussi a été raccourcie par Berger, qui présentait les nouvelles de Conan comme étant celle d'un viking blond d'il y a 10 000 ou 12 000 ou 15 000 ans, je ne sais plus. Enfin, les chiffres. Donc, ça reste quand même de l'approximatif. Berger, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, lui, il a découvert Huertez en kiosque. Et en kiosque, ça, à Paris. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 30 et 40, on trouvait des pulp magazines dans les librairies américaines, chez Brian Tanos en particulier. Alors, je vous ai amené deux petits Huertez, je vais prendre le micro. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous avez sur ma gauche la première nouvelle de Conan, Le Phénix sur l'épée, numéro 232, et là, vous avez le numéro 233. Et en fait, il existe sur Internet, si vous grappillez bien sur le net, vous verrez qu'il y a pas mal de photos d'époque, des années 30 ou 40, où on voit des vitrines de l'époque avec des pulp magazines. Il y en a une très connue qui est de 34, qui est la devanture de chez Brian Tanos, dans laquelle on voit des dizaines et des dizaines de pulp magazines. Donc c'est là que ces gens-là vont découvrir la science-fiction américaine, la fantasy, le fantastique américain, et ils vont développer leur passion. Berger a prétendu pendant très longtemps avoir été un correspondant de Lovecraft. Alors on n'a aucune preuve que c'est bien été le cas. Joshi, le spécialiste de Lovecraft, pense que ce n'est pas le cas. Peut-être que tu peux préciser, Christophe.
Oui, alors Berger aimait beaucoup raconter des tas de belles histoires dans lesquelles, de préférence, il tenait un rôle et où les gens qu'il aimait beaucoup tenaient un rôle aussi. Donc l'histoire de la correspondance de Berger avec Lovecraft, c'est une histoire trouble. Mon avis personnel, c'est que c'est un mélange de vrai et de faux. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait eu une ou deux lettres envoyé à Lovecraft par Jacques Berger, et qu'elles ont peut-être eu une réponse. Après, parler, comme ça a été fait, d'une dizaine d'années de correspondance, c'est peut-être un petit peu aller loin. Mais voilà, la fameuse citation dans laquelle Berger s'étonnait de ce que Lovecraft ait décrit si fidèlement Paris dans la nouvelle « La musique d'Eric Zahn », petite parenthèse, les Parisiens qui ont lu la nouvelle trouvent que ce n'est pas si fidèle que ça. Et Lovecraft lui aurait répondu « De New York ». Il lui aurait répondu « Je n'ai jamais voyagé, j'ai visité Paris avec Poe en rêve ». Donc je trouve que c'est trop beau pour être entièrement faux. Je pense qu'il y a un tout petit élément de vérité au fond de cette histoire. Je pense qu'il n'est pas impossible que Lovecraft ait visité Paris en rêve, effectivement. Je ne sais pas s'il l'a dit vraiment comme ça à Berger. Je pense qu'il a visité Paris avec Poe, c'est-à-dire qu'il a lu, par exemple, il a dévoré Edgar Poe, il a lu la rue Morgue, le mystère de Marie Roget et toutes ces nouvelles qui se passent à Paris. Donc, d'une certaine manière, il a visité Paris avec Poe. Voilà, je m'écarte peut-être un peu du sujet.
Non, c'est très intéressant. Il me semble que Berger a eu deux ou trois lettres qui sont parues dans Huertel, en courrier des lecteurs. Ceux qui pourraient avoir donné naissance à j'ai écrit à Huertel, j'ai parlé de Lovecraft, du coup, je suis devenu correspondant de Lovecraft.
Oui, deux lettres. Une pour dire qu'il était fan et que pour lui, Lovecraft était un des meilleurs auteurs de la revue et il n'était pas le seul à le penser. Huertel, c'était une revue où paraissaient des textes qui n'étaient pas de très très haut niveau, où il y avait beaucoup d'histoires. Extrêmement classique, avec des monstres un petit peu fatigués, légèrement mangés au mythe, des loups-garous, des fantômes, etc. On connaît en particulier Seabury Quinn, qui était un auteur qui tirait beaucoup sur tout le fond du folklore du fantastique, et que Lovecraft n'aimait pas du tout. Bergier, comme beaucoup des meilleurs, des lecteurs les plus discriminants de Huertel, avait repéré qu'il y avait trois grands auteurs dans cette revue, qui étaient Lovecraft, Mark Ashton Smith et Robert Howard. Et puis, il y a une deuxième lettre que Bergier a écrite juste après la mort de Lovecraft, qui est parue dans le courrier des lecteurs, pour dire que pour lui, c'était un grand auteur qui venait de mourir.
Déjà, quelqu'un de visionnaire. Alors, François, tu as connu Jacques Bergier?
Oui. Oui, bien sûr, par l'intermédiaire de Philippe Drouillet, que qu'on rencontrait beaucoup. Et on a été un jour, aux éditions Planète, qui était encore au, avenue des Champs-Élysées. Donc c'est là que j'ai connu Jacques Bergier, donc j'étais vraiment ravi, enchanté, fasciné. Donc, et après, on s'est revus assez souvent, c'était vraiment un type complètement fou, très, très exceptionnel.
Quand tu rencontres Bergier, c'est qui pour toi? Avant de l'avoir rencontré, c'est quelle réputation il a?
C'était l'auteur, en grande partie l'auteur du Matin des Magiciens avec Poe Wells. Donc j'avais dévoré et je trouvais formidable. Et donc quand je l'ai rencontré, c'était vraiment cet auteur. Donc puis après, il n'arrêtait pas de parler, de raconter tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il se connaissait. Donc c'était vraiment, on passait des moments fabuleux.
Et donc tu connaissais à cette époque Howard, ou alors tu avais lu le Planète dans lequel il y avait le Phénix, ou pas?
Oui, j'avais lu le Phénix, mais non, je n'avais pas lu Howard. Même dans les recueils de Casterman, je ne me souviens pas à l'époque avoir lu Howard, et c'est bien plus tard que j'ai découvert, et même en français, je n'avais pas lu les deux ou trois nouvelles qui étaient parues aux éditions Casterman.
Ce qui permet d'enchaîner facilement sur les Casterman, qui est le deuxième éditeur français qui va publier du Howard, dans des anthologies dirigées et pour la plupart traduites par Jacques Papy. Mais 20 pas dans l'au-delà, je ne me rappelle plus les titres exacts. Donc, je sais plus, 3-4 bouquins qui paraissent, et dans lesquels il y a plusieurs petits textes de Howard qui sont traduits par Jacques Papy, qui va donc devenir le deuxième traducteur de Howard. Que dire de Jacques Papy sans être méchant ou...
Oui, Jacques Papy, c'était quelqu'un qui était reconnu comme traducteur parce qu'il était agrégé d'anglais, qui a fait beaucoup de... Vous pouvez voir sa page Wikipédia, que j'ai consultée récemment. Il a traduit beaucoup d'auteurs anglais qu'on dirait classiques. Et puis, c'est lui qui a réalisé les grandes traductions de Lovecraft chez Présence du Futur, qui ont été beaucoup, beaucoup diffusées. Alors, après, il y avait une philosophie de la traduction qui, paraît-il, n'a plus tellement cours aujourd'hui, qui consistait à... essayer d'améliorer un peu le texte de l'auteur quand on considérait qu'il était trop verbeux, trop lourd, éventuellement qu'il ne rentrait pas dans un format imposé par l'éditeur. Donc il y avait, je dirais, un strict respect de la fidélité au texte qui était peut-être un petit peu moins grand que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors maintenant, il y a eu pire que Papy hein, dans les traductions de Lovecraft.
Oui, je pense. Dagon, c'est ça? Le fond.
Non, Démons et Merveilles.
Ah oui, si, donc. Donc dans ce milieu-là, donc on voit une effervescence qui se produit autour de Lovecraft, bien avant Howard, et ça va se matérialiser en 1969, Monsieur Truchot, par le cahier de Lerne sur Lovecraft, dans lequel on va trouver des poèmes de Howard.
Oui, je me suis aperçu, quelqu'un m'a fait remarquer, effectivement j'avais intercalé un poème de Howard, alors que du tout, à l'époque, je n'avais pas du tout d'intention de publier, de traduire du Howard. C'est assez bizarre et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'ai mis un poème de Howard dans le cahier de Lovecraft. C'est assez bizarre, c'est une pression, c'est très curieux.
Alors comment est-ce qu'est venu apparaître ce cahier de Lerne, parce que c'est quand même un un grand pas dans la reconnaissance.
Ah oui, oui, c'est en 68, j'avais rencontré Dominique Deroux qui dirigeait les Cahiers d'Herne, et quand il voyait quelqu'un, il proposait toujours à son interlocuteur de faire un Cahiers d'Herne sur un auteur. Et les gens disaient oui, puis après il s'est tombé. Alors que moi j'ai dit, ah, je veux faire un Cahiers d'Herne Lovecraft, puis je m'y suis tenu, et un an et demi après, je lui ai apporté le Cahiers d'Herne Lovecraft. Il était un peu épaté, parce que c'était un gros morceau. Et puis Lovecraft, à l'époque, c'était pas grand-chose. Hein. Donc le Cahiers d'Herne est paru en 69, je crois. 69, 70, oui. Et donc, c'était vraiment un gros pavé, donc c'était pas mal.
En 70, donc Lovecraft, Smith, Howard commencent à devenir des auteurs qu'on envisage vaguement publier. Quel est le contexte, je dirais, français de l'époque? Qui est-ce qui lit Howard? Qu'est-ce qui lit Lovecraft? Qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est les mêmes gens qui vont découvrir Tolkien 2 ans plus tard? Est-ce que c'est plutôt réservé à des gens un peu bizarres, aux geeks de l'époque? Ou est-ce que... quel est le milieu ambiant, en fait, de l'époque?
Howard, il n'y avait personne à l'époque. Hein, mais c'est surtout Lovecraft. Parce que Lovecraft, il y avait les lecteurs assidus de Lovecraft depuis des années, donc qui étaient au courant, hein, sans problème. Mais Howard, c'est venu bien après, hein, avec Néo. Donc, pour les autres auteurs, ou Clark Ashton Smith, ou ça, c'est venu bien plus tard, hein, avec Néo, qui a publié beaucoup d'auteurs. C'était Lovecraft vraiment le plus connu.
Et donc, deux, trois ans plus tard, on arrive en 1972, et c'est là pour la première fois que Conan va apparaître en France aux éditions spéciales. Donc, on est chez Jean-Claude Lattès, c'est bien ça. Oui. Et là, il y a trois volumes qui vont paraître, dont deux que tu as traduits. Le troisième est traduit par une certaine Anne Zribi, oui. Si mes souvenirs sont bons, dont je n'ai jamais retrouvé la moindre trace. Et donc, c'était au départ, j'imagine, la traduction des volumes américains chez Lancer. Avec le droit de couverture de Frazetta aux États-Unis, en France, c'est Druyer qui réalise ces couvertures-là. Trois volumes et puis la collection s'arrête. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la naissance de cette collection, puisque tu en es, je crois, ou à l'origine en tout cas, qui était très intéressé pour faire les traductions. Comment tu avais découvert Howard et comment tu en es venu à demander à pouvoir traduire ces livres, et puis comment et pourquoi cette collection s'est arrêtée rapidement.
Oui. Comme j'ai dit, donc, j'avais découvert Howard par les couvertures de Frazetta. Donc, et après, peu de temps après, j'ai appris que la thèse, enfin, à l'époque c'était l'édition spéciale, allait publier des Conan. Donc j'avais l'intention. Donc je les ai tout de suite contactés en disant je voudrais traduire ce que vous allez faire de Conan. Et ils m'ont dit bon d'accord, faites un essai. Donc j'ai fait un essai qui a été accepté. Et après ils m'ont donné à traduire donc, deux volumes. Donc ils ont sorti 3 volumes, et après ça s'est arrêté. Donc je ne sais pas du tout si ça a marché ou quoi. Et puis bon, je ne sais pas combien de temps ça a duré, édition spéciale. Deux ou trois ans peut-être. J'ai traduit un polar de Van Gogh, Les Nouveaux Centurions. Et puis Les Vierges de Satan aussi, de New Weasley. Donc c'était pas mal. Et puis après, je ne sais pas du tout. Bon, puis après... L'édition spéciale est devenue l'édition Jean-Claude Lattès, donc ils ont pris, enfin, des années plus tard, ils ont pris Conan sous la direction de Marianne Lecomte, et ils ont publié les huit originaux.
Là, c'est une partie qu'on abordera un peu plus tard. Oui. Donc là, on est en 72, 73, 74, 75, c'est le début de la période métal, c'est là où on commence à voir Druyer qui fait ses délires sur Lovecraft. Donc à ce moment-là, Lovecraft commence déjà à être installé dans le paysage français, alors que Howard est un parfait inconnu, presque.
Alors, j'aimerais bien, si tu permets, faire un petit retour en arrière dans le temps et revenir à 1970, non pas pour parler des publications des fictions de Howard, mais pour parler de critique. Et là, en 70, on a ce bouquin qui sort, donc Admiration, de Jacques Bergier. On peut dire que Bergier était quelqu'un qui avait le don de faire des contacts. Donc il s'était mis en cheville avec Christian Bourgois, grand éditeur, très amateur d'imaginaire à ses heures, et Bourgois qui avait publié, alors je ne sais plus si c'était à la même époque, enfin en tout cas qui est aussi connu pour avoir publié Tolkien et des gens comme Fred Chappell et tout un tas d'auteurs intéressants d'imaginaire. Christian Bourgois avait donné son accord pour que Jacques Bergier réalise un volume qui s'appelle Admiration et dans lequel il parlerait des écrivains, à raison d'un chapitre chacun, des écrivains, suffisamment intéressant et peu connu pour mériter d'être mis en avant. Alors, Lovecraft n'y figure pas parce que Bergier pensait qu'il en avait déjà fait suffisamment et que c'est bon, la dynamique était enclenchée. Il parle de gens comme Abraham Merritt, qui était peut-être, Abraham Merritt est en poche, on le trouve, il y a des gros volumes qui ont été publiés, on le trouve bien maintenant, mais je pense qu'à l'époque, ce n'était pas encore aussi répandu. Il parle et il consacre également un chapitre à Robert Howard, et donc c'est là, en 70, qu'on a pour la première fois une critique. Bon, après, il y a des remarques à faire sur les détails, mais une critique suffisamment de qualité, avec un récit de la vie de Howard et également de sa mort, bien entendu, une petite analyse de son univers, de ses thèmes, des choses qui l'intéressent, et puis de ses différents écrits. Donc à l'époque, en 70, il y a encore très peu de choses de publiées, mais on devine que si Bergier a envie d'en parler, c'est que, il va se passer des choses. Alors de façon intéressante, il y avait un Admiration 2 qui était prévu, qui n'a jamais vu le jour, et dans lequel il y aurait eu un chapitre sur Clark Ashton Smith, à côté de quelques autres auteurs intéressants. En tout cas, Bergier donc a fait vraiment ce qu'il a pu pour pousser en avant toute cette série d'auteurs qui l'intéressaient, et avec Howard, voilà, ça n'a pas été négligeable.
J'aurais une question pour François. C'est, donc à cette époque, comment est-ce que vous, alors quand je dis vous, c'est tout le milieu professionnels de l'époque, les traducteurs, les gens qui s'intéressent à Lovecraft, comment est-ce que vous percevez ces auteurs-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on va limite les canoniser, on fait attention à respecter le texte à la virgule près, attention à toutes les coquilles, on va traquer les manuscrits? Est-ce qu'à l'époque, c'était, il y a une approche, j'allais dire, révérencieuse, limite religieuse de votre sujet, ou alors c'est juste une passion, on va très vite, et on est fan avant tout, et l'important, c'est que ça aille vite et que ce soit très joli?
Oui, non, c'était surtout axé sur Lovecraft. Hein. Parce que les gens étaient vraiment fanatiques. Bah, bon, ils disaient Lovecraft depuis Noël, depuis des années. Donc c'était surtout Lovecraft. Hein. Sur Howard, non, les autres non plus. Hein. Ils n'étaient pas tellement connus. Donc c'est surtout Lovecraft qui monopolisait le tout. Quoi.
Mais est-ce qu'il était vu comme un auteur sérieux déjà? Ou alors c'était, vous trouvez ça intéressant parce qu'il était justement à côté des clous de la critique classique?
Ah oui, non, c'était vraiment des fanatiques hein, de fantastique en général, et qui étaient vraiment révérencieux envers Lovecraft. Hein. Ah oui.
Petite remarque à ajouter, Christophe?
Oui, c'est difficile. Alors voilà, moi qui n'ai pas du tout vécu cette époque héroïque, c'est encore plus difficile, mais c'est difficile d'estimer le profil du lectorat d'un auteur à une époque passée. Aujourd'hui, Lovecraft, il y a un peu un double visage du lectorat tel qu'on l'imagine, avec d'un côté des passionnés érudits qui, comme disait Patrice, vont traquer la virgule et la coquille, et puis d'un autre côté, des jeunes geeks qui vont rigoler à la moindre mention des tentacules verdâtres. L'impression que j'ai, donc M. Truchot pourra peut-être me corriger, mais c'est qu'il y avait en tout cas au début des publications de Lovecraft en France, mais je m'excuse de dévier un petit peu sur Lovecraft, hein, mais enfin on n'est quand même pas très loin du sujet, il y avait une ambiance un peu plus intellectuelle. Moi j'ai été frappé par le fait que les premières critiques de Lovecraft étaient parues dans des magazines littéraires comme les Lettres Françaises, qu'on faisait la comparaison avec Edgar Poe pour voir ce qui était mieux, ce qui était moins bien. Donc j'ai eu l'impression que Lovecraft avait été accueilli par une ambiance un peu plus littéraro-intellectuelle que ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui. Alors, et quant à Robert Howard, je ne sais pas ce qu'il en est.
Bah, Howard, à l'époque, c'était M. Sprague de Camp qui dirigeait tout, donc il avait la charge de la diffusion et de la protection de l'œuvre qu'il s'amusait à bien classer. C'était beaucoup plus complexe pour Howard, puisque la personne qui était chargée de faire sa promotion disait « Non, mais attendez, c'est... lire pour vous divertir, c'est tout sauf intelligent, c'est même complètement con, quoi. Mais ça vous permet de passer un bon moment, le monde est simple, les femmes sont nues, et il y a un monstre qu'il faut tuer avec une épée. » Donc voilà, donc on a eu la montagne à gravir a été beaucoup plus ardue en ce qui nous concerne que ce qui concerne le Lovecraftien. Petite remarque pour terminer, François, sur ces années-là?
Non, je pense que tout a été dit.
On va passer un petit peu de retard, mais ça va. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps pour répondre à vos questions, si elles ne sont pas trop méchantes et si elles concernent le sujet. Oui.
Vous avez des chiffres, des éditions, par exemple, les Néo pour Howard. À combien ça...
Alors, pour les Néo, je propose qu'on voit ça tout à l'heure sur la partie Néo, puisque là, on a
les
chiffres.
Mais en tout cas, les anciennes éditions,
alors, général, pour les,
comment ça... édition spéciale, aucune idée.
Comment ça tirait,
Ouais, non, je pourrais pas vous dire, je sais pas du tout.
On a oublié de parler de l'homme noir qui était paru au fait au masque
Moi j'ai découvert avec titre SF la thèse, j'ai l'impression que ça se vendait pas mal.
C'est années 80, donc je pense. On en reviendra tout à l'heure, on va essayer de catégoriser,
de compartimentaliser ces livres.
D'autres, oui.
Moi donc c'était pour, déjà pour vous remercier d'avoir permis l'existence de ça. Parce que moi en tant que. En fait, au début, moi je suis né en 91, donc mon premier contact avec Howard et Conan, c'est le film de Milius.
Oui.
Ça a été mon premier contact. Et après, j'ai dit, ah, c'est des bouquins, je vais les lire. Et après, on m'a dit, oui, alors, mais il y a un auteur qui est passé après l'auteur original. Donc, en fait, ce que tu vas lire n'a rien à voir avec ce que tu attends. Et du coup, pendant des années, j'ai pas attaqué parce que je voulais la version vraiment non retouchée. Je voulais lire les écrits d'Howard, pas les écrits de Howard, mais on n'est pas sûr que c'est lui. En fait, c'est pour ça que même encore maintenant, quand on dit. Moi j'adore Howard et j'adore Conan. Il faut passer par quelques minutes d'explication. Merci sur les préfaces qui sont.
Oui, c'est une histoire de ma vie.
Je
ne
sais pas si vous avez vu cette vidéo du Fossoyeur de Film sur Conan.
Oui, oui, voilà, oui.
On est obligé d'expliquer que. Ah non, moi je suis pas quelqu'un qui aime juste les gros bleus et les filles à poil. Non,
c'est exactement ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, pour nous, là je parle au nom de Christophe et moi-même, le travail il est plus facile. Parce qu'on arrive, on est une deuxième génération, on arrive après des gens qui ont tout défriché avant nous, qui ont su susciter une passion. On a aujourd'hui Internet, on a accès aux manuscrits, on a affaire à des œuvres qui sont connues par le grand public, ne serait-ce que par les produits dérivés, les petits Cthulhu est connu de tout le monde, et Conan est connu de tout le monde. Et on a la chance d'avoir des gens qui étaient là avant nous, et je pense à François en particulier, on pourrait dire Jacques Papy, tous ces gens, Berger, tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils travaillaient avec rien, ils travaillaient avec le matériel dont ils disposaient. C'est-à-dire quand on va traduire une nouvelle de Conan, ben, on va récupérer une édition de poche, parce que c'est la seule qu'on peut trouver. On n'a pas accès à des Weird Tales en France comme ça, il y a 40 ans. Donc, ces gens-là sont des pionniers, en ce sens qu'ils ont travaillé du mieux qu'ils pouvaient avec le matériel qui était à leur disposition. Et alors, certes, parfois, le résultat n'est pas toujours extraordinaire ou de qualité ou de fidélité textuelle. Mais en tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas rater dans ce travail-là et qu'on ne peut pas nier, c'est la passion des gens qui étaient là avant nous. Et rien que pour ça, on doit passer, je pense, sur les détails et sur les défauts qui ne sont que des détails.
Petite question technique, en fait, c'est pour édition spéciale. J'avais cru lire que les trois illustrations de Druillet, justement pour ces livres-là, à la base, ça devait être des illustrations qui avaient été faites pour Elric le Nécromancien. Je voulais avoir confirmation.
Je me souviens pas, non, il me semblait pas.
Parce que je crois que c'était une adaptation. À la base, c'était pas fait justement, c'était pour illustrer Howard, c'était sur un autre projet a priori.
C'est possible, mais bon, moi j'avais vu les.
Faut parler fort.
Moi j'avais vu les premières planches de Druillet à l'époque et ce n'est pas du tout ça. Non, je crois qu'il les a fait vraiment spécialement pour Conan. Ouais. Hein. Bah bon, je prends peut-être, mais il me semble pas.
Comme il était à sa période de Lancelot aussi, où ça ressemble énormément graphiquement. Donc,
oui.
Il a d'où il est permis. Quoi.
Oui. Non, mais là je pense que c'était vraiment pour Conan. Spécialement, édition spéciale.
Parce que moi, je vois très bien une des couvertures, on voit une sorte de tête de démon.
Oui.
Je crois que c'est le deuxième, on voit sur un fond orange, où justement, ça ne ressemble pas trop à ce qu'on peut lire dans les écrits d'Howard, justement.
Ah oui.
C'est beaucoup plus imaginaire.
Ah oui, oui. Bon, on lui avait peut-être demandé des couvertures comme ça, puis il n'y avait pas lu, sans lui donner le texte à lire. Donc il est parti sur son imaginaire.
Je sais que c'était aussi la période de son Necronomicon qu'il avait
fait
aussi.
Oui.
Il y avait une autre question.
Et du coup, M. Truchot, pourquoi c'est pas vous qui avez réalisé la traduction du troisième volume? Vous savez pourquoi ils l'ont confié à quelqu'un d'autre?
Mais je pense qu'au départ, le premier volume était déjà traduit.
Ah d'accord.
Oui, donc par la fameuse Hans Rebi. je ne sais pas d'où elle sort.
Allez, vas-y sur la phrase. Et... les bandits de la tour d'éléphant.
Ah oui, qu'est-ce que c'était?
Les bandits qui faisaient la bombe.
Ah oui, qui faisaient la bombe.
Dans le bol.
Parce que je pense qu'à l'époque, le premier volume, initialement, la collection devait paraître, je ne sais plus quelle maison d'édition. Et puis le projet a été abandonné et a été repris par la thèse pour édition spéciale. Donc c'était le premier volume apparemment était déjà traduit. Donc ils m'ont confié les deux autres.
Une question par là, je ne sais plus qui. Oui.
En fait, ce n'est pas vraiment une question. Je voulais juste faire une petite remarque sur la réception dans les années 60. Il ne faut pas oublier quand même une chose, c'est que le lectorat qui disait Planète, c'était des gens qui étaient cultivés et qui avaient des moyens parce que la revue était chère à l'époque. Et ils ont eu la chance de toucher un lectorat qui était un lectorat beaucoup plus ouvert que la moyenne, parce qu'il ne faut pas oublier que Planète, l'aspect littéraire n'était qu'un aspect, mais on lisait dans Planète aussi sur l'architecture, sur les arts en général, etc. Et à l'époque, on lisait ça, c'est parce qu'on se posait des tas de questions, on était dans la France du général de Gaulle, et où on essayait d'écarter un peu les carcans. Bon, moi j'étais jeune à l'époque, mais je lisais Planète au lycée, et je trouvais ça formidable.
Une dernière question, oui?
J'avais une question, alors, on est à l'époque des hippies, on a beaucoup dit que les hippies avaient tous Beatball et Hobbit dans leur sac à dos, c'était marqué sur la quatrième de couverture d'une des éditions du livre. Est-ce que les hippies, français ou ailleurs, lisaient Howard?
Lisaient Howard? Écoutez, je pense pas, hein, parce qu'à l'époque, Howard était vraiment pas connu. Hein. Il y avait eu quelques nouvelles en français, et puis c'est tout. Hein. Donc c'est pas comme Lovecraft, qui était quand même plus répandu.
Non, ça, c'est
ça. Voilà.
Allez, une dernière, est-ce qu'il y en a une? Et puis après, on va faire une petite pause 5 minutes avant de passer au. Oui?
C'est une vraie question. C'est étonnant avec Robert Howard d'avoir un écrivain aussi cinématographique qui est aussi peu d'adaptation cinématographique et de qualité. Du coup, je veux savoir quelle était votre sensation sur les adaptations cinématographiques des écrits d'Howard.
Je pourrais faire référence à la page 200, je ne sais plus combien, du guide Howard. Je te laisse parler pour l'instant, si tu veux parler. Voilà. Alors, adaptation, donc celle. Le guide Howard, c'est paru chez ActuSF il y a un an. C'est dédié au monsieur qui est à côté de moi. Voilà. Et donc, il y a une partie qui s'appelle les adaptations de l'œuvre d'Howard. La première partie, c'est Howard au cinéma. Et donc, je lis il n'existe à ce jour aucune adaptation d'un texte de Howard au cinéma. Et c'est vrai. Et c'est vrai, merci. Voilà, on peut toujours espérer. Voilà, bon, c'est pas l'objet de la journée, mais vous savez qu'on parle depuis très longtemps d'une suite du Conan avec Arnold Schwarzenegger. Je pense que ce projet n'a jamais existé et qu'il n'existera jamais pour des raisons qui sont un petit peu longues à évoquer ici. Mais voilà, je pense que ce film ne verra jamais le jour et qu'il n'a jamais été question qu'il voit le jour. En revanche, je me posais à François la question, puisque à l'époque, toi, tu étais là lorsque le Conan de Minuit est sorti. J'imagine que ça a peut-être eu un impact sur ça et puis après sur le. Avec le Fleischer, hein. Donc c'est un réalisateur que tu aimes bien, Fleischer. Je ne sais pas si on
dit. Oh, moyen, mais enfin, non, c'était pas très bon. Hein. Les Conan de Fleischer. John Milius, il y avait des bonnes choses. Et puis bon, c'est Milius à rajouter ces trucs, c'est japonisant. Enfin bon, c'était assez bizarre. Bon, mais il y avait des bonnes choses, mais l'ensemble était. C'est un peu mitigé.
Bien, on va s'arrêter là pour cette première petite conf. On a débordé déjà de 10 minutes. Alors, rapidement, deux choses. Tout d'abord, alors je ne sais pas si vous le savez, mais pour le festival des mondes de l'imaginaire de Montrouge, on a fait brasser une bière pour l'occasion, donc une bière Howard. C'est limité à 150 bouteilles. C'est une IPA. Moi, j'avais demandé d'avoir une bière un petit peu spéciale, un petit peu corsée. Donc voilà, donc du coup.
Elle est à combien de degrés?
Elle est à 7 degrés.
Hein?
7 degrés, non, c'est une hyper, donc bref, on parlait de jargon de bière. Elle est franchement sympa. Elle est collector d'ores et déjà. Donc voilà, ça peut se boire, se garder. Ça se trouve au bar en bas. Elle a 4,90€, je crois, de mémoire. Voilà, je ne touche pas d'argent dessus, moi, je la bois simplement. Voilà, notre prochaine conférence, on va laisser 5-10 minutes de battement, sera consacrée à Howard en bande dessinée des années 70. Notre invité, Jean-Pierre Dionnet, qui devait être là, ne sera pas des nôtres pour des raisons malheureuses et dentaires, on va dire, qui l'empêchent complètement de pouvoir parler. Donc on va devoir faire sans lui. C'est dommage car lui tout seul il aurait fait la conférence. Vous imaginez bien, il a tellement d'histoires. Donc on va essayer d'être aussi intéressant, sachant qu'on n'aura pas d'histoire et d'anecdotes aussi sympathiques. Et on se retrouve pour la conférence suivante qui sera le gros morceau de la journée sur les années néo. D'ici, on va dire, il est 41, on reprend à 50 pour la conférence suivante. Vous avez le temps d'aller boire une bière au bar, d'aller aux toilettes, de venir nous parler. Si vous avez des livres à faire signer par M. Truchot, il sera très heureux de le faire. Et voilà, puis bonjour, etc. Merci beaucoup en tout cas d'être venu.